Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Il est 20h, dans un instant c'est face à Rio Folle, mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Puboulot.
À Matignon, Elisabeth Borne a réuni les principaux ministres concernés par la réforme des retraites. Olivier Véran l'assure, le gouvernement ne veut pas avoir à utiliser l'article 49.3, mais espère mener à bout le processus démocratique jusqu'au vote du texte. Les débats parlementaires reprendront mercredi avec la convocation d'une commission mixte paritaire en parallèle d'une 8e journée de manifestation. À la SNCF, la grève reconductible se poursuit. Demain, le trafic sera en nette amélioration, mais restera perturbé sur la plupart des lignes, avec 3 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 1 TER sur 2 en moyenne. En région parisienne, prévoyez 3 trains sur 4 pour les RER A et E et 1 sur 2 pour les RER B et C. Et puis dans le reste de l'actualité, à Niort, une marche blanche s'est tenue en hommage à Kevin et Leslie. Près de 300 personnes y ont participé. Les corps du couple ont été retrouvés début mars, plus de 3 mois après leur disparition dans les Deux-Sèvres. Les obsèques de Kevin auront lieu jeudi à Niort, celles de Leslie samedi à La Rochelle. 3 hommes sont mis en examen dans l'affaire, dont 2 pour assassinat.
Top départ de face à Rio Folle. Bonsoir, cher Yvan. Comment allez-vous?
Très bien. Merci.
Bonsoir, Elliot. Bonsoir, Gabriel Cluzel. Ravi de vous retrouver. À la une, justement, de face à Rio Folle, dans une société de plus en plus fracturée où la violence gangrène notre quotidien. Le monde politique est-il à la hauteur? Cette semaine, par exemple, le ministre de la Justice a fait non pas un, mais 3 bras d'honneur au sein même de l'Assemblée nationale. Où est passé le respect, l'exemplarité? On en parle dans un instant. À la une également, notre histoire judéo-chrétienne, nos valeurs dérangent. Les déconstructeurs ont libre antenne et rêvent d'un monde occidental différent. Pourquoi tant de haine? Comment résister? Élément de réponse dans cette émission. Enfin, Yvan, vous recevez ce dimanche Jean-François Brunstein, professeur émérite de philosophie. Vous allez justement revenir sur le wokisme. Plus qu'une idéologie, c'est devenu une religion, avec ses fanatiques, ses prêcheurs d'une pensée unique contre le monde d'avant. Voilà le programme. Face à Rio Folle, c'est parti. Et cher Yvan, vous commencez avec ce monde politique. Est-ce qu'il est à la hauteur? Mardi, à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a adressé 3 bras d'honneur au patron des députés LR, Olivier Marleix, avant de s'excuser de son geste. Vous avez voulu revenir sur cet épisode. Pourquoi?
J'y ai vu beaucoup de symboles. D'abord, j'y ai vu sans doute le symbole d'une politique qui devient, me semble-t-il, pour un certain nombre de Français, un bras d'honneur permanent. C'est vis-à-vis de ceux qui ne comprennent plus comment les politiques mènent la barque, si je puis dire. Et puis, plus anecdotiquement, j'ai vu à travers ce geste-là, qui peut en effet paraître dérisoire, c'était 3 petits bras d'honneur à peine esquissés, j'y ai vu malgré tout la dégradation des comportements politiques et la dégradation, dans le fond, dans son manque de tenue, mais également dans ses comportements immatures, en l'occurrence un petit geste de petite frappe, en tout cas de petit voyou, en tout cas de cours de récréation, mené par le garde des Sceaux, mais également dans un geste d'effondrement des idéaux rabaissés au plus petit dénominateur commun, qui est aujourd'hui de flatter le consommateur à travers le citoyen, dans une sorte d'arasement des grands idéaux. Et donc, je trouve que ça a été assez révélateur, cet épisode-là, de la grande crise politique. C'est-à-dire que l'opinion médusée est en train d'observer à la fois la bordélisation du Parlement, je prends bordélisation parce que c'est le terme qui a été employé par Gérald Darmanin, et en même temps l'emballement du grand économètre des pensées devenues folles. On en parlera tout à l'heure avec Jean-François Brunstein, qui a bien étudié cette question-là, et qui nous montre que maintenant vous avez des intellectuels qui peuvent soutenir que 2 et 2 font 5. Et donc on est là dans une sorte de modèle qui s'effondre sous nos yeux, un modèle dépassé qui sombre dans l'hystérie, dans l'injure en l'occurrence, et dans la violence parfois. Et donc ceci paraît quand même très inquiétant, et c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur ce geste-là. Alors naturellement, le garde des Sceaux, qui s'est excusé, mais après quand même un coup de fil de Mme Borne, de la Première ministre, si j'ai bien compris, et après malgré tout avoir été excusé par Olivier Véran, qui a vu dans ce geste simplement, qui a rappelé que le garde des Sceaux était lui-même un homme d'honneur, rajoutant encore dans le fond une sorte de mépris supplémentaire. Donc le garde des Sceaux a dit que ce geste-là, cette injure, n'était pas destinée à Olivier Marleix, qui avait pris la parole et qui rappelait dans un argumentaire destiné à contredire Aurore Berger, qui rappelait que le garde des Sceaux avait été mis en examen. Et donc, le garde des Sceaux a essayé de justifier son geste en disant que cette mise en examen valait présomption d'innocence et que son bras d'honneur était un bras d'honneur contre la présomption d'innocence. Bon, naturellement, ça ne dupe personne, sinon de rappeler malgré tout que la mise en examen jusqu'à des périodes très récentes valait démission. Parce que je vous rappelle que premier garde des Sceaux qui s'appelait François Bayrou avait dû démissionner parce qu'il avait été mis en examen. Donc là, les règles changent en fonction de la personnalité de l'individu, ce qui est très bien. Mais en l'occurrence, ça n'enlève rien à son geste et cela aurait mérité, de mon point de vue, en tout cas, remise à l'ordre, ou peut-être même démission. Mais plus généralement, j'ai compris à travers ce geste mimétique de la part du garde des Sceaux, j'y ai vu comme une faiblesse de caractère, car en fait, le garde des Sceaux a reproduit là une violence qui est la violence qui a été imposée par la NUPES elle-même au cœur de l'hémicycle, c'est-à-dire avec une sorte de, naturellement, d'agressivité, de vulgarité assumée, y compris d'ailleurs dans leur comportement
vestimentaire,
d'habillement, je ne trouve pas le vocabulaire, mais également qui est un comportement qui est insufflé par le président de la République lui-même. C'est-à-dire que j'ai vu dans ce bras d'honneur du garde des Sceaux une sorte d'inspiration donnée par le président de la République lui-même qui, il me semble-t-il, multiplie également les gardes des Sceaux à l'encontre de ceux qu'il ne veut pas entendre. C'est-à-dire que je me rappelle très bien du président de la République s'adressant aux non-vaccinés, disant « j'ai bien envie de les emmerder ». Je me souviens très bien de la provocation qu'il avait lancée lors de l'affaire Benalla en disant « qui viennent me chercher ». Je me souviens très bien des photos très, très suggestives qui avaient été prises de Macron, par exemple, aux Antilles, posant face à un repris de justice, torse nu, faisant un doigt d'honneur cette fois-ci. Je me souviens également de cette autre photo prise à l'Élysée lors d'une fête de la musique où l'on voyait Macron et son épouse en photo face à un groupe de ce qui s'appelait Kindy Smile, qui se présentait comme étant noir et pédé et qui se posait en short et en t-shirt résille. Donc il y avait une vulgarité qui est assumée par le président de la République au cœur du pouvoir qui me semble également avoir donné autorisation, en tout cas à ceux qui voudraient lui ressembler ou le mimer, et singulièrement au garde des Sceaux, de se jouer également des valeurs élémentaires de la bonne conduite, dans le fond. Et je pense que cet avachissement, cette perte de repères me semblait assez révélateur, dans le fond, de ce monde qui s'écroule, de ce monde politique qui s'écroule.
Permettez-moi de rappeler, ce groupe se présentait comme tel, hein. C'est pour ça que vous l'avez rappelé au mot près.
On est bien d'accord. Ah oui, qui se présentait comme tel, oui, bien sûr. Ah, il s'appelait les Candy Smile.
Okay.
Candy
Smile. Vous croyez que l'opinion est finalement sensible à ces fautes de goût? Pourtant, elle en a vu d'autres, Yvan Rioufol.
Écoutez, moi, je crois que l'opinion, de plus en plus, voit effectivement le pouvoir politique et la Macronie comme ce perpétuel bras d'honneur. D'abord, rappelez-vous que la démocratie est malmenée depuis un certain nombre d'années. Et on pourrait même faire remonter ce bras d'honneur à 2005, lorsque les Français avaient voté contre la Constitution européenne et qu'en 2007, par un très beau bras d'honneur, Nicolas Sarkozy avait remis sur le tapis, à travers le traité de Lisbonne, ce que les Français avaient rejeté. Et je vois que, en tout cas, sur la réforme des retraites, qui est très mal conduite, un nouveau bras d'honneur s'apprête à être lancé à l'opinion. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut effectivement faire une réforme des retraites et qu'il faut travailler davantage si l'on veut maintenir ce système par répartition. Mais j'observe également que cette réforme a été parfaitement mal expliquée, a été mal bâtie et qu'il persiste d'ailleurs des graves inégalités. D'abord, une inégalité entre le privé et le public, puisque le public ne cotise encore que n'aura de cotisation que sur les six derniers mois, alors que pour le privé, c'est sur les 25 dernières années. On voit bien que le Sénat s'est gardé également d'ailleurs de remettre en cause son propre régime spécial qui est très avantageux, etc. On pourrait faire l'inventaire de toutes les inégalités. Et donc, je pense que le pouvoir aujourd'hui s'est enferré dans son entêtement à ne pas vouloir entendre cette colère populaire, qui est une colère qui dépasse, me semble-t-il, maintenant les retraites pour précisément viser le grand mépris de ce pouvoir-là, et que Je pense que lundi, jeudi ou vendredi, le pouvoir ne sera contraint, me semble-t-il, à passer par un autre bras d'honneur énorme qui sera celui du 49-3 s'il n'arrive pas à avoir le soutien des Républicains. Et je pense que les Républicains sont dans un tel état d'inquiétude aujourd'hui qu'une partie d'entre eux ne viendra pas, et c'est sans doute une bonne chose, ne viendra pas acquiescer à ce projet de réforme afin de laisser le gouvernement, dans le fond, dans ces incertitudes-là. Et donc, je vous laisse à imaginer si vraiment, après cette succession de bras d'honneur, le 49-3, qui est donc une mesure autoritaire qui permet de faire passer la réforme sans qu'il y ait eu aucun vote, ce que ce 49-3 pourrait susciter comme autre colère. Et donc, je fais cette hypothèse que le bras d'honneur, qui est celui des pouvoirs en place, du gouvernement, du garde des Sceaux et du président de la République, pourrait se solder, dans le fond, en retour par un bras d'honneur de l'opinion excédée elle-même. Alors je vois bien que pour l'instant, les dernières manifestations se sont essoufflées. J'avais émis cette hypothèse que ce mouvement s'essoufflerait parce qu'en effet, il a été confisqué par des syndicats progressistes qui ont voulu exclure de la manifestation tout un pan de la société se réclamant notamment du Rassemblement national. Donc le socle était faible. Mais en même temps, je vois bien également que qu'il pourrait y avoir malgré tout une sorte de conjonction si vraiment, à travers ce 49-3, s'il a lieu, bien entendu, s'il pourrait y avoir une conjonction d'irritation qui pourrait faire revenir toute une partie de cette société qui, pour l'instant, a été exclue des manifestations et qui, elle, pourrait naturellement enclencher un mouvement beaucoup plus violent. Et d'ailleurs, si vous entendez M. Berger ce matin dans le JDD, si vous le lisez dans le JDD ce matin, lui-même rappelle d'ailleurs que les Gilets jaunes, s'ils avaient pu décrocher 13 milliards de subventions, c'était après avoir suscité des actes de violence, notamment à l'Arc de Triomphe, alors qu'ils n'étaient que 3 500. Et lui, il rappelle qu'ils sont plusieurs millions dans les rues. Donc voilà, on est dans cette situation, me semble-t-il, où à travers ce geste qui aurait pu paraître anodin, ou en tout cas imbécile du garde des Sceaux, nous arrivons à une sorte de lutte frontale entre une opinion, une partie des citoyens, une partie majoritaire, me semble-t-il, des citoyens, et le pouvoir en place, qui ne cesse de mépriser ces Français depuis trop longtemps.
Gabriel Cluzel, est-ce que vous partagez cette idée du bras d'honneur permanent, de ce rapport-là entre les politiques et les Français?
Ah oui, la formule est excellente. Oui. Le coup d'État permanent, maintenant il y a le bras d'honneur permanent.
J'aurais aimé qu'on le mette en santé.
Vous avez raison, on pourrait trouver un autre titre de bouquin, c'est un garde des Sceaux ne devrait pas faire ça. Vous voyez, le problème c'est qu'on pourrait l'appliquer à beaucoup de monde aujourd'hui. C'est pas le bras d'honneur, c'est le bras du déshonneur, quoi, qu'en disent ses collègues. Moi je suis très frappée parce qu'on nous avait présenté cet homme comme un tribun, c'était le bossuet des prétoires. Vous voyez, mais c'est pas acquis. C'est agitateur, parce que quand vous faites un bras d'honneur, c'est que vous n'avez plus d'arguments. Vous savez très bien que c'est le geste grossier des gens un peu frustres qui n'ont pas de mots pour s'exprimer. Or, a priori, le garde des Sceaux n'était pas réputé tel. Par ailleurs, ça prouve qu'il fait peu de cas de sa fonction. Alors comment vous voulez ? Il ne respecte pas sa fonction. Normalement, la fonction, c'est quelque chose qui vous dépasse. Et même si vous avez envie de faire un bras d'honneur, vous ne le faites pas. Même un petit bras d'honneur, il a été petit bras, comme on dit. Mais c'était 3 petits bras d'honneur de trop. Et ça montre qu'il n'a pas de respect pour sa fonction. Donc c'est difficile de demander aux Français d'en avoir de leur côté. C'est évidemment un manque d'exemplarité absolument patent. Alors à une époque où on veut relever l'éducation nationale, c'est quand même compliqué. C'est un peu schizophrène de se rendre coupable de tels gestes. Et puis c'est vrai, Yvan Rioufol a raison de rappeler que ce bras d'honneur, il est un peu autorisé par une attitude générale d'Emmanuel Macron. Pardon, mais quand on le voit à Kinshasa s'amuser, faire la fête, pendant que dans le même temps, il y a des manifestations de gens qui s'inquiètent légitimement, qui ont peur de pas nourrir leurs enfants, tout simplement, de pas réussir à le faire, eh bien il y a un minimum de décence qui n'est pas perçu comme tel par le gouvernement. Alors c'est aussi un bras d'honneur à l'endroit du pouvoir législatif, hein, puisque c'est un ministre qui fait un bras d'honneur au pouvoir législatif, et ça rappelle aussi Olivier Véran au temps de la crise du Covid qui avait parlé très violemment aux députés. Donc de fait, cette expression est une trouvaille et elle restera. D'ailleurs, je remarque que faire une Dippo Moretti, ça commence à passer dans les mœurs. C'est comme la botte de Jarnac. Hier, quelqu'un m'a dit « Oh, j'ai envie de lui faire une Dippo Moretti ». Vous voyez, c'est embêtant. Bras d'honneur, ça devient synonyme de Dippo Moretti.
Je pense que c'est un bras d'honneur qui a été fait également au juge, parce que et ça pourrait valoir comme étant un jure à magistrat. Parce que quand il fait un bras d'honneur, il fait un bras d'honneur aux magistrats qui l'ont mis en examen.
Donc il fait un bras d'honneur aux autres pouvoirs.
Alors qu'il est garde des Sceaux. Je voulais compléter effectivement ce que vous aviez dit.
Est-ce que, Yvan, dans le fond, vous parlez de décadence politique?
Oui, alors naturellement, ce mot est galvaudé, mais on voit bien, par la force des choses, que les hommes politiques ne sont pas à la hauteur, enfin, une grande majorité des hommes politiques actuels ne sont pas à la hauteur des, gens, des enjeux, je suis obligé de le constater. Alors certes, vous avez des hommes politiques remarquables, bien entendu, qui d'ailleurs ne sont pas, qui ne rentrent pas dans les faisceaux de l'actualité le plus souvent, qui sont encore relativement en coulisses et qui certainement apparaîtront un jour ou l'autre, mais... Par la force des choses, on est bien obligé de constater que, y compris le président de la République, n'est pas porté par une vision. Enfin, sa dernière trouvaille a été de vouloir inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG. D'accord, on peut très bien en discuter, mais ce n'est quand même pas la priorité non plus que d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, alors que l'on voit que tout s'effondre autour de nous. Enfin, il y a mille sujets, en tout cas 10 sujets, qui sont d'une urgence extrême. Notamment notre endettement, notamment l'effondrement éducatif, l'insécurité, que sais-je encore. Et donc on voit que le président se précipite pour flatter un air du temps, pour flatter un électorat et pour mimer, encore une fois, une sorte de bougisme, pour reprendre le mot de Taguieff, pour montrer qu'il est encore réformateur. Mais on voudrait qu'il soit réformateur pour des vraies réformes et non pas sur ces réformes essentielles-là. Donc oui, en effet, on peut parler de déclin, un déclin d'ailleurs à tout point de vue, parce qu'on voit que même en Afrique également, son voyage en Afrique a montré à quel point sur ce terrain-là, ce terrain international, la France ne valait plus rien, n'était plus entendue. Nous sommes tombés de notre estrade, bien entendu. Nous sommes en 5e, 6e, 7e position et nous avons vécu, nous apercevons maintenant de notre déclassement. Donc tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce monde-là s'écroule, avec paradoxalement le fait que celle qui était présentée comme la moins préparée à l'alternance, à une alternative Marine Le Pen, commence à être vue comme étant effectivement une alternance ou une alternative possible, bien qu'elle ait effectivement des lacunes, mais au moins a-t-elle, elle, une sorte de bon sens qui lui fait rester avoir les pieds sur terre, enfin peut-être pas sur les retraites, où là, on pourrait peut-être en discuter, mais enfin, sur le reste, elle a tout de même, on voit bien qu'elle a cette écoute, en tout cas, d'une partie d'une opinion qui elle, voit bien que ce pouvoir oligarchique n'entend rien des souffrances des gens. Et donc, peut-être, en effet, est-elle en train de gagner ce pari qui est de se réhabiliter au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, et de se réhabiliter dans ses capacités à diriger demain le pays.
Voilà pour la première thématique. C'est vous qui l'avez trouvé, le bras d'honneur permanent ?
C'est bien possible, oui, c'est bien possible. Je pense même l'avoir trouvé tout de suite, voyez-vous, je m'avais inspiré.
Je vais peut-être le garder. Autre thématique. Qui veut la peau du monde occidental et de l'homme occidental ? La porte-parole d'Oser le féminisme, Violaine de Philippis, a accusé la culture judéo-chrétienne d'être l'inspiratrice des meurtres de femmes en France. C'était la semaine dernière. Que vous inspire cette réflexion ?
D'abord, un profond accablement, parce que bon, il suffit de regarder la condition des femmes en Afghanistan, en Iran, ne serait-ce que où l'on voit que ces femmes se battent contre un régime autocratique, machiste, sexiste, qui méprise les femmes, pour se rendre compte que s'il y a un problème, c'est bien effectivement dans ces pays islamiques-là. Bon, je rappelle tout de même le propos de cette jeune femme, parce qu'il faudrait la citer dans son ensemble. Elle était interrogée sur les meurtres, des meurtres de deux femmes récemment en France. Elle a récité ceci. « Ce ne sont pas des faits divers, mais des faits systémiques, des faits que notre société engendre. Je rappellerai d'ailleurs que c'est notre culture judéo-chrétienne qui les engendre. Malgré ce que tente parfois de faire croire l'extrême droite, ce n'est pas dû à l'immigration, c'est bien notre culture, nos valeurs qui créent ces drames. » Donc on est vraiment accablé par autant de bêtises récitées avec autant d'aplomb. Car bien sûr, naturellement, il peut y avoir des meurtres de femmes en France, naturellement, mais si l'on regarde... La condition des femmes ailleurs qu'en France, la condition des femmes est bien meilleure en France qu'ailleurs. Elle est d'ailleurs bien meilleure dans les pays occidentaux qu'ailleurs. Et d'ailleurs, le christianisme a été à la source, si je puis dire, de la promotion de la femme. Je reprends là un argument qui a été développé par Eugénie Bastier dans un bon papier qu'elle a fait cette semaine dans le Figaro pour répondre précisément à cet argumentaire. Et elle rappelait que d'abord que c'est Jésus qui a interdit de lapider la femme adultère, rappelez-vous, donc déjà qui a interdit une sorte de féminicide avant l'heure, pour reprendre ce mot des féministes que je n'aime pas, mais enfin que j'emploie à dessein ici pour me faire comprendre. Naturellement, le culte de Marie est un culte qui est un culte à la mère, mais est un culte à la femme. Le culte des saintes, des multiples saintes, sont naturellement des cultes également au rôle que jouent les femmes dans la religion catholique. Donc il est tout à fait imbécile, naturellement, de vouloir critiquer la religion judéo-chrétienne comme étant à la source du machisme, bien qu'il y ait pu y avoir du machisme dans la société occidentale, je n'en disconviens pas, alors même qu'on voit bien que dans les textes du Coran lui-même, vous avez des textes qui appellent à frapper la femme, c'est écrit noir sur blanc, et donc j'aimerais que cette Péronnelle regarde au moins, lise les textes et regarde son histoire. Mais ceci dit, cette manière que l'on a aujourd'hui de cracher sur nous-mêmes n'est pas nouveau. Je me souviens d'un clip qu'avait fait, c'était lors de la journée de la femme de 2014, le 8 mars 2014, qu'avait fait Julie Gayet, qui est devenue l'épouse de François Hollande, qui, pour dénoncer des mariages forcés, avait mis en scène un couple de bourgeois parisiens, visiblement très fortunés, qui avaient décidé de donner leur petite fille à un vieux libidineux en les faisant se marier dans une église. Donc on voyait bien qu'il y avait un détournement du message pour faire comprendre que les mariages forcés étaient des pratiques communes, dans le fond, chez les bourgeois du 16e arrondissement de Paris, alors que les mariages forcés sont naturellement des pratiques tribales qui sont développées par les populations issues de la diversité. Et donc il y a un profond accablement à voir que vous avez toute une jeune génération qui est perméable aujourd'hui à cette déformation de l'histoire.
Vous avez été choqué, j'imagine, Gabriel, par cette déclaration de Violaine de Philippis, qui accusait, je le rappelle, la culture judéo-chrétienne d'être l'inspiratrice des meurtres de femmes en France.
Oui, d'ailleurs, elle ne donne pas l'ombre d'une justification. Elle sort sa phrase comme ça passe crème. C'est quand même assez atterrant de voir sortir de telles inepties et en plus qu'on ne se donne même pas la peine d'essayer un semblant d'explication. Alors là, j'ai un peu creusé. Cette personne est aussi chroniqueuse à l'Humanité. À Noël, elle a expliqué que Noël, c'était le patriarcat. Vous voyez, donc elle a une subtilité de la pensée assez remarquable. Non, ce qui m'effraie, c'est que, avant de revenir sur le fond du sujet, c'est que Oser le Féminisme, elle est porte-parole d'Oser le Féminisme, hein, c'est une association qui est subventionnée, et notamment qui intervient dans les écoles, c'est sur leur site, je suis allée sur leur site, hein, c'est expliqué de façon très claire, qui intervient dans les écoles à la demande, gratuitement, par exemple, en Ile-de-France, parce que c'est la mairie de Paris et le conseil régional d'Ile-de-France qui, subventionnent ces interventions, offrent ces interventions aux écoles. Donc c'est intéressant de savoir ce qui est raconté à nos filles. Alors évidemment, tout ce qu'elles racontent, c'est évidemment n'importe quoi. Vous avez vu beaucoup de femmes qui partent de l'Occident et qui rêvent d'aller au Pakistan, en Afghanistan, sous d'autres cieux pour avoir une condition meilleure. Évidemment, c'est faux. Et puis, c'est quand même très paradoxal de la part de ces femmes de gauche d'ensuite réclamer qu'un certain nombre de femmes soient accueillies, parce que si elles ne sont pas accueillies chez nous, elles seront excisées ou elles seront mariées de force. Alors, je rappelle que le christianisme, Yvan Rioufel a infiniment raison, c'est lui qui a tout simplement permis l'émergence d'un féminisme, hein, comme le raconte, je crois que c'est Anne-Marie Pelletier dans son livre « Le christianisme et les femmes vient siècle d'histoire ». Et d'ailleurs, c'est dans la Régine Pernoud, la femme au temps des cathédrales, on peut lire, et c'est très finement expliqué, que ce sont des reines européennes qui ont converti l'Europe, comme Clotilde chez nous, parce qu'elles avaient la foi, évidemment, mais parce qu'elles y voyaient aussi leur intérêt dans un mariage monogame et par consentement mutuel.
On est un peu pressé par le temps, très rapidement, Yvan, juste pour oser le féminisme, l'une de ses présidentes ou fondatrices, Raphaël Rémy-Leleu, est également conseillère de Paris. Il y a des élus.
La Pignon-sur-Rue, cette association,
voilà. Bien sûr. Allez-y, Yvan, vous vouliez réagir, et notamment cette haine de ce que nous sommes. Pourquoi tant de haine?
Je pense que nous payons là effectivement un héritage de ces vieilles idées chrétiennes devenues folles, comme le disait Chesterton, et notamment de ce mea culpa qui, naturellement pour nous, nous fait assumer nos fautes, mais nous fait assumer nos fautes jusqu'à l'excès quand il s'agit de vouloir d'avoir à s'excuser de notre colonisation passée, de notre esclavagisme passé, de notre antisémitisme passé, que sais-je. Et il y a une bonne formule que j'ai reprise d'Alain de Benoît dans ses Confessions intimes qui vient de sortir, où il nous dit que le christianisme a été à la source de la modernité, mais que là, en même temps, la modernité est en train de tuer ce christianisme précisément par les excès de la modernité, et donc dans une sorte de parricide parfait. Et donc, en effet, nous sommes victimes aujourd'hui de notre trop grande générosité intellectuelle et de notre trop grande ouverture d'esprit qui fait que, naturellement, nous avons à reconnaître nos fautes que les autres ne reconnaissent pas pour eux-mêmes.
Je vous presse un peu et je m'en excuse, dans la deuxième partie, Jean-François Bronstein sera votre invité. Et puis, vous avez trouvé la formule du soir, le bras d'honneur permanent. On revient dans un instant, vous allez parler justement de la religion woke, autre religion. (Rire) 20h30 sur CNews, la suite de Face à Rioufol dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information, Isabelle, puis Boulot.
Des monticules de poubelles se mêlent au paysage parisien. 5400 tonnes de déchets n'ont toujours pas été ramassées selon la mairie. Trois usines d'incinération aux portes de la capitale sont à l'arrêt. Les éboueurs sont en grève depuis une semaine alors que l'intersyndicale appelle à une huitième journée de manifestation mercredi contre la réforme des retraites. En Grèce, la colère ne faiblit pas depuis la tragédie ferroviaire du 28 février. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui. Près de 12 000 à Athènes, 5 000 à Thessalonique. Tous déplorent un manque de réaction du gouvernement malgré les alertes de syndicats quant à la vétusté des installations ferroviaires et le manque de personnel dans les gares. La collision des deux trains à Tempé a fait 57 morts. Et puis avis aux amateurs du 7e art, la 95e cérémonie des Oscars se tiendra cette nuit à Los Angeles. En grand favori, on retrouve la comédie Everything Everywhere All at Once avec 11 nominations. L'Académie espère que les audiences seront au rendez-vous, loin de toute polémique. La fameuse gifle de Will Smith à Chris Rock avait défrayé la chronique l'année dernière.
La deuxième partie de Face à Rio Folle, toujours avec Yvan, bien sûr, Gabriel est présent également. Et nous sommes avec Jean-François Bronstein. Bonsoir Jean-François Bronstein. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne. Vous avez écrit La religion woke et la philosophie devenue folle. Yvan, pourquoi avoir invité Jean-François Bronstein?
Parce que j'ai adoré ces deux derniers livres qu'il faut lire si vous voulez comprendre comment effectivement la philosophie devient folle et comment les idées les plus saugrenues peuvent être maintenant soutenues avec le plus grand sérieux. Alors les idées les plus saugrenues qui peuvent conduire par exemple à ce que des enfants puissent choisir leur sexe, qui peuvent conduire certains intellectuels à dire que puisqu'il n'y a pas de différence entre les espèces, la zoophilie par exemple est autorisée. Et vous avez des aberrations de ce genre. Et la dernière aberration en date vient du planning familial qui, après avoir fait la promotion de l'homme enceint, a fait un petit texte pour assurer que le pénis n'est pas un organe sexuel mâle. Donc, comme on en arrive maintenant à ces aberrations, à ces imbécilités, il faut comprendre ce qui se passe. Et ma première question est de vous demander si le monde intellectuel est bien encore ancré dans la rationalité ou est-ce qu'aujourd'hui c'est un divorce qui est prononcé ?
Je crois qu'effectivement, dans mon premier livre, La philosophie devenue folle, j'avais montré qu'à l'intérieur du monde intellectuel, il y a des théories très aberrantes qui circulent avec l'idée qu'il faut effacer toutes les limites entre l'homme et l'animal, les limites entre l'homme et la femme. Et aussi effacer le caractère tragique de la mort. Donc l'enthousiasme, ce que j'appelle l'enthousiasme pour l'euthanasie. C'était il y a 5 ans et je pensais que ça allait avoir des conséquences et les conséquences sont là maintenant. C'est-à-dire que la théorie du genre maintenant est omniprésente, la question de l'animalisme aussi est avancée et l'euthanasie également.
Et donc, mais ça va assez loin sur l'animalisme. Cela m'avait choqué à l'époque de voir que l'antispécisme, c'est oui. Ceci, peut conduire, selon certains, et notamment Stinger, je crois, je ne sais plus quel est son nom, oui. À faire l'éloge oui. des relations sexuelles entre l'homme et l'animal. Oui, on est bien d'accord avec ça.
Il raisonne uniquement en termes de quantité de plaisir ou quantité de souffrance. Donc pourquoi pas, si l'animal est content, pourquoi pas avoir des relations sexuelles avec lui. Il ne voit pas la question. Alors ça vient d'un autre délire qui est un délire, je dirais, de philosophie analytique. C'est-à-dire l'idée qu'on peut penser les sentiments, le plaisir, la souffrance, en dehors de tout sujet. Et ça vient aussi du fait qu'on veut effacer l'homme. Il y a une attaque directe contre l'idée d'humanisme, contre l'homme tel que le définissait la Renaissance, les Lumières, etc. Oui. Mais ce qui est très étrange, c'est que maintenant, c'est devenu quelque chose de très courant. Et c'est pour ça que j'ai fait un deuxième livre sur cette religion woke, parce que ça, c'est descendu aujourd'hui dans toutes les universités, dans les écoles, dans les entreprises, etc.
Alors, quelle est la source de cette idéologie? Quel est le dénominateur commun de ces folies? Est-ce que c'est l'indifférenciation? C'est pour être ça?
Non, moi je pense que c'est tout à fait différent. C'est effectivement, alors on dit souvent ça vient des auteurs français, des philosophes français, pas du tout. Hein. Les auteurs français ne sont pas des auteurs identitaires et communautaires comme cela. C'est effectivement l'idée que ils ont une nouvelle vision du monde. C'est pour ça que j'ai gardé le terme woke, parce que woke ça veut dire réveiller, éveiller. Et alors ils disent éveiller l'injustice, etc. Mais c'est vraiment une nouvelle vision du monde avec trois thèses principales, en gros. La théorie du genre, c'est-à-dire l'idée que ce qui compte, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la biologie qui est critiquée comme une fausse science, c'est le sentiment que l'on a, la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre. Et c'est ce que l'on enseigne maintenant dans les écoles américaines, anglaises, écossaises et plus ou moins chez nous. Deuxième idée, la race, c'est-à-dire que si vous voulez être antiraciste, il faut toujours parler de race, il faut être obsédé par la race. et il faut agir toujours en fonction de la couleur de peau de celui auquel vous adressez. C'est le contraire de l'universalisme républicain. Pam Dia dit on ne parle pas assez de race en France à cause de l'extrême droite. Ben non, on ne parle pas assez de race en France parce que on est dans un pays universaliste et où on ne considère pas la couleur de peau des gens. Moi, une formule très courante qui est de dire je me moque que vous soyez joie, noir, jaune ou vert, ça c'est extrêmement raciste pour ces militants parce qu'il faut toujours regarder la couleur.
Donc,
ça,
et entre parenthèses, on a le droit de se dire homme si on est femme ou femme si on est homme, mais on n'a pas le droit de se dire blanc si on est
noir. Voilà, c'est assez compliqué. Alors c'est assez contradictoire. Il y a une contradiction, mais effectivement, parce que si on dit je suis noir, d'abord on plaisante avec quelque chose qui est la catégorie la plus opprimée, et puis ça casse des communautés. Donc tout ça, c'est autour des communautés. C'est-à-dire que quand on devient transgenre, on devient dans la communauté des transgenres. Quand on est noir, on est dans la communauté noire, etc. Donc il y a ces deux idées qui sont un peu incohérentes, mais qu'ils soutiennent à la fois. Et puis il y a une troisième idée, c'est l'idée que la science n'existe pas, il n'y a pas de connaissance objective, tout est toujours d'un point de vue subjectif du point de vue, et du point de vue, il faut donc faire une science des dominés plutôt que de chercher la vérité. Donc c'est tout à fait le contraire, je dirais, de ce qui est la base, si je puis dire, de l'université républicaine, etc. Et autre point, c'est qu'il y a un refus radical de débattre et la volonté d'annuler l'ensemble de la culture occidentale qui n'est pas conforme à ces principes.
Et le réel n'a plus sa place.
Le réel est subsidiaire, est optionnel, si je puis dire. Et c'est pour ça que je crois que la théorie du genre est vraiment le cœur de cette histoire-là, parce que la théorie du genre, c'est dire le corps n'existe pas, si je décide d'être ceci ou cela, je peux l'être. Alors c'est une idée absurde, hein. Ça fait penser à une hérésie chrétienne qui s'appelait la gnose, où on pensait que le corps c'était le mal, et ils veulent effectivement se débarrasser du corps. Le problème, si c'était juste une histoire d'universitaire, etc., ça ne serait pas grave. Mais ça va dans le même sens qu'effectivement toute l'idéologie du métaverse, des GAFAM, qui est une idéologie du monde virtuel. Et il y a effectivement une espèce de guerre, je dirais, entre ceux qui se réclament du monde réel et ceux qui se réclament du monde virtuel. Ces woke pensent qu'effectivement, ils vivent dans un monde virtuel. Et d'ailleurs, on le voit chez les jeunes qui se laisse séduire par cette hypothèse trans, c'est un monde virtuel. Et c'est ça qui est très gênant, parce que ce n'est pas juste une idéologie d'universitaire de gauche, soi-disant, c'est aussi l'idéologie des GAFAM.
Alors ce qui est surprenant, c'est que cette idéologie saugrenue est en train d'envahir à peu près tout le monde universitaire. D'abord, c'est implanté aux États-Unis, a envahi tout le monde universitaire français, et ne semble pas avoir d'obstacle face à elle. Comment expliquez-vous cette passivité-là ?
C'est très, très étonnant. Mais je crois que la principale raison, c'est le fait que c'est la première fois qu'une religion naît dans les universités. Or, théoriquement, le lieu qui critique ces idéologies absurdes, c'était les universités modernes. C'est-à-dire que dans les universités depuis le 19e siècle, c'est la raison, le libre examen, l'échange d'arguments qui commandent. Or là, ce sont les universitaires qui sont le plus enthousiastes sur cette question-là.
Mais comment ça s'explique alors?
Moi, je cite un auteur Tertullien qui dit « Credo qui absurdum », je crois parce que c'est absurde. Je crois que les universitaires, les intellectuels croient à ce genre de choses parce que c'est absurde. C'est-à-dire parce que ça fait sens vers une plus haute connaissance. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment une religion, parce qu'il s'agit de quelque chose qui est totalement invraisemblable d'une certaine manière.
Vous évoquez Tertullien, mais si on parle par exemple d'une religion qui est le catholicisme, elle essaie quand même de faire coïncider la foi et la raison. Là, vous nous développez des théories assez absurdes et pourtant qui ont pris comme une flambée dans les universités. Il n'y a pas de professeurs, en dehors de quelques kamikazes comme vous, qui résistent. Vous n'allez pas me croire qu'ils croient tous à ça. Ou alors ils se cachent.
Il y en a beaucoup qui ont peur. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont peur pour leur carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de, je peux parler parce que je suis émérite, c'est-à-dire que je suis hors du circuit, mais beaucoup de collègues...
Entre parenthèses, vous êtes hors du circuit, parce qu'on vous a mis hors du circuit ?
Non, parce que je suis parti un peu plus tôt que prévu, mais voilà, c'était pas... Je suis parti, bon. Mais bon, c'est pas la question. Mais je pense qu'il y a effectivement une forte pression, parce qu'il y a la pression des réseaux sociaux. Il y a des... Bon, par exemple, il s'est passé hier ou avant-hier aux États-Unis quelque chose de tout à fait étonnant. Un juge qui est invité à Stanford, la fac de droit de Stanford, qui est la plus réputée du monde et des États-Unis, il a été empêché de parler par des étudiants et la doyenne chargée de la diversité, équité et inclusion qui a dit « Ah, vous pouvez pas parler, vous êtes de droite, c'est trop dur pour nous, ça nous fait pleurer, vous brisez notre communauté, etc. » C'est des choses incroyables. C'est-à-dire que dans la plus grande université, et tous ces étudiants, la plupart sont partis, ce sont les étudiants qui vont être à la tête des grandes institutions américaines dans quelques années. Donc c'est quelque chose de très violent, et parce qu'il y a effectivement la mort sociale, les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, et ce qui est aussi très important, c'est ce que dit un journaliste américain, Andrew Sullivan, qui dit « Nous vivons tous sur les campus maintenant ». C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises, les médias, les journaux, etc., les GAFAM, sont des gens qui sont sortis des universités. Et donc c'est une religion qui va se répandre, et on le voit aux États-Unis, on est en train de commencer à le voir ici. La prochaine étape, ce sont les écoles, ce sont les collèges, ce sont les lycées, et aussi les facs de sciences, de médecine, etc.
Vous nous confirmez bien qu'également en France, il n'y a pas d'opposition donc, pour l'instant à ce grand tsunami. Donc ma question était, vous étiez professeur de philosophie à la Sorbonne, comment est-ce que votre entourage, vos collègues dans le fond, ont accueilli vos prises de position, puisque
j'ai très peu de collègues qui continuent à me voir, à me parler, etc. Bien sûr.
C'est ça. Donc vous avez tout été marginalisé par ce
bien
que
sûr.
Vous avez dit.
Mais et si j'avais des étudiants qui voulaient travailler avec moi, etc. Ce serait très compliqué. J'ai des exemples de jeunes thésards qui veulent faire des thèses, mais qui ne sont pas dans le sens du mainstream, hein, de courant, ils sont obligés de laisser tomber. Souvent, ils font autre chose. Ils font de la médecine, ils font des sciences, etc. Parce que dans les facs de lettres et sciences humaines, c'est très répandu. Il y a quelques résistants. On avait fait un colloque à la Sorbonne qui a été traité de colloque de la honte. On nous a dit c'est le colloque de la honte, il y a eu des manifestations, etc. Mais on n'était qu'une centaine à peu près.
Est-ce que vous diriez que cette idéologie est une idéologie totalitaire? Et est-ce que cette idéologie, dans le fond, n'a pas comme fondement une sorte de déconstruction de tout ce qui pourrait ressembler à la civilisation occidentale, avec héritière des Lumières et de tout ce qui est de la raison?
Je pense que de toute façon, ce n'est pas une idéologie progressiste, de gauche, etc. C'est une idéologie fortement hostile à tout ce qui constitue les Lumières, à l'universalisme, puisque la théorie de la race, c'est une théorie où on est enfermé à jamais dans sa race. Critique de la science, quand on critique la biologie comme une fausse science, ça rappelle Lysenko, la science bourgeoise et la science prolétarienne. Critique de l'autonomie individuelle, hein, c'est ce que dit Bret Easton Ellis, ce que veulent les woke, c'est en finir avec l'individu. On doit toujours être le membre d'une communauté, etc. Critique aussi de la raison, de la science, etc. Donc c'est une critique très radicale de l'héritage des Lumières et de la pensée occidentale. Est-ce que ça veut dire qu'il faut détruire est-ce qu'ils veulent détruire l'Occident? Non, mais ce qui est très frappant, c'est que nous sommes les seuls à être woke. C'est-à-dire que dans le monde, si on a une vision géopolitique du monde, Poutine se sert de ces histoires pour justifier sa invasion en Ukraine, les Chinois nous prennent pour des fous, et les islamistes essaient de manipuler les trans, etc., sur la chaîne AJ+, par exemple, et c'est une chaîne hyper woke, alors qu'on sait très bien ce qui arrive aux trans et autres au Qatar. Donc je pense que c'est pas une volonté de destruction directe de l'Occident, mais en revanche, le monde entier nous regarde avec étonnement ou consternation.
Gabriel.
Je vous ai écouté, vous avez dit que ce n'est pas une idéologie progressiste de gauche. Néanmoins, force est de constater qu'elle est portée par des progressistes de gauche, vous en conviendrez avec moi. Ce ne sont pas les conservateurs de droite qui la portent, et on ne peut pas dire qu'il y a une grande opposition du côté de la gauche. Donc est-ce que vraiment cette différence est pertinente?
Non. Ce qui est très évident, c'est que le courant issu des Lumières est d'une certaine manière épuisé. C'est-à-dire qu'effectivement, personne venu. Alors il y en a quelques-uns, nous sommes quelques-uns, je me considère d'une certaine manière comme cela, mais effectivement c'est quelque chose qui peut séduire effectivement, notamment avec l'idée de transformer, de s'émanciper jusqu'au bout. Hein, c'est ça, à mon avis, ce qui fait que les progressistes ne sont pas, sont favorables quelquefois. Ils se disent, bon, on s'est émancipé de ceci, de cela, on va s'émanciper maintenant du corps et on sera des êtres absolument, des consciences pures et libres. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, ce sont plutôt des gens de droite ou des gens qui ont rapport avec la réalité. Moi, je pense que vraiment la question, et on le voit aux États-Unis, le débat, c'est entre les gens qui vivent dans le monde virtuel et ceux qui vivent dans le monde réel. Et on voit très bien, et c'est très fascinant de voir, il y a toutes sortes de vidéos, on voit les parents d'élèves dans les écoles américaines qui protestent au risque d'ailleurs d'être poursuivis pour terrorisme, etc., ne voulant pas des Noirs, des Latinos qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants qu'ils sont des victimes nécessairement, des parents qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants que le genre est au choix dès l'école primaire. Et tout le débat américain, mais ça va être aussi le débat, à mon avis, en France, c'est autour de ce genre de questions-là, il me semble.
Vous avez suggéré que l'islamisme, donc, qui était quand même également une autre idéologie totalitaire de mon point de vue, instrumentalisait le wokisme. C'est bien ce que j'ai compris de vous. Alors qu'il y a quand même une incompréhension.
Oui, oui, mais
est-ce que cette alliance peut aller jusqu'au bout? Parce que, à la limite, on pourrait imaginer que l'islamisme serait presque la meilleure arme pour vaincre le wokisme.
Oui. Ben, je pense que l'islamisme s'en sert d'une manière très cynique. Hein. On voit dans les manifestations certains militants islamistes qui soutiennent des transphobes contre ce qu'on a des trans contre ce qu'on appelle les femmes TERF, hein, les femmes qui sont hostiles aux trans, etc. Mais effectivement, c'est purement tactique, si vous voulez. Oui. Alors, ce qui est certain, moi, je pense qu'effectivement, ce que marque au fond cette histoire du wokisme, c'est que quand il n'y a plus de religion, on prend n'importe laquelle. Et d'une certaine manière, il me semble que ce que Chantal Delsol appelle la fin de la chrétienté, ça ouvre la voie à ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, il me semble que l'enthousiasme, le fait que tout le monde se rue là-dessus, c'est à la fois parce qu'il n'y a plus de combat, hein, il n'y a plus de combat au sens qu'il y en avait auparavant, de gauche, etc., ou de droite, ou autre, et il n'y a plus de religion. Et donc, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une religion de substitution. Avec le pire de la religion, je précise là-dessus, il n'y a plus de raison, alors que bon, saint Thomas d'Aquin, c'est quelqu'un qui a soutenu la raison, et le pape Benoît XVI aussi. Il n'y a plus de raison, il y a un sectarisme hallucinant, etc.
Il
n'y
a pas de rédemption non plus.
Et pas de rédemption. C'est vrai que vous avez tout à fait raison. Le péché originel, l'équivalent, c'est ce qu'ils appellent le privilège blanc. Et le privilège blanc, malheureusement, on ne peut pas en être débarrassé. Donc il ne reste qu'à débarrasser les blancs du plancher, si je puis dire. Bon, ce que dit par exemple Sandrine Rousseau, ce qu'elle appelle l'androcène, c'est que tout le mal sur la Terre vient de l'homme blanc.
Ah oui, c'est ça quand
voilà,
même.
C'est
oui,
ça, oui, bien sûr.
Malgré tout, on revient quand même à l'homme blanc.
Oui, tout ça, et ça marche effectivement avec l'idée d'une culpabilité terrible, voilà. Effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'on se croit coupable de tout le mal du monde. Ce qui est en fait une sorte d'orgueil. On n'est pas responsable de ce qui se passe à l'autre bout du monde en termes d'exploitation, etc. Donc,
Mais comment fait-on pour lutter contre cette importation d'une idéologie américaine? Je rappelle malgré tout que c'est une idéologie nord-américaine qui nous avait apporté jusqu'alors la liberté et qui nous importe la pire des idéologies qui soit. J'ai l'impression, et si on poursuit les lignes, on a l'impression que cette idéologie ne rencontrant pas d'obstacles, risque de s'installer un peu partout en France. Quelles pourraient être les limites à apporter par cette idéologie et qui pourrait les apporter? Puisque les intellectuels, si je vous entends, ne sont pas à la hauteur ou ont même baissé les bras.
Moi, je pense que c'est d'ailleurs ce qui se passe, et j'ai eu des réactions de politiques ou autres en lisant mon livre. L'idée, c'est qu'effectivement, par exemple, les parents pourraient demander dans les écoles qu'on n'enseigne pas des choses absurdes à leurs enfants. Par exemple, le planning familial dont on discutait tout à l'heure, qui explique que les hommes sont enceintes, qui demande que dans la Constitution, on propose l'IVG pour les personnes enceintes et pas seulement pour les femmes enceintes parce qu'il y a des hommes qui sont enceintes, qui explique que le pénis n'est pas un organe sexuel masculin. Le planning familial qui fait tout ça est autorisé, est agréé pour intervenir dans les écoles. Où
il est subventionné.
Et subventionné, etc. Et le problème, c'est qu'effectivement, il me semble que des parents pourraient dire stop à ce genre de choses. Ou des gens... Des parents issus de l'immigration ou autres peuvent dire « Stop, vous n'allez pas enseigner à mes enfants que ce sont des victimes alors que j'essaie de m'en sortir, etc. » Donc moi, il me semble que la chance, peut-être, ce serait des gens du monde réel. Mais il faut faire vite parce que certains sondages montrent que chez des jeunes qui ont été déjà déformés par tout ça, ils sont quelquefois d'accord aux États-Unis pour qu'on enseigne à leurs enfants la théorie critique de la race, c'est-à-dire tous les blancs sont coupables, tous les noirs sont victimes, la théorie du genre, etc. Donc je pense qu'il y a un créneau de temps où il faudrait effectivement, à mon avis, répondre assez rapidement.
Est-ce qu'on pourrait résumer, dans le fond, votre cri d'alarme en disant que nous nous en sortirons que si la société civile réclame à nouveau l'urgence du bon sens en termes de politique?
Oui, absolument, le bon sens, la réalité, hein, essayer de voir ce qu'il en est, voir que nous ne sommes pas tous racistes, mais certains sont racistes, d'autres ne le sont pas, que le racisme n'est pas éternel, systémique, etc., que le genre n'est pas au choix. Il me semble qu'on ferait un grand progrès, mais c'est compliqué, parce que dire des choses comme ça, ça vous fait passer pour... Effectivement, une collègue qui a voulu être très agressive avec moi a dit c'est du bon sens que dit Brandstedt. Ben oui, c'est du bon sens. J'espère que les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Il faut comprendre, hein, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est assez simple, c'est-à-dire que toutes les absurdités qu'on revoit tous les jours maintenant à l'arrivée, c'est 3 ou 4 thèses. Hein, il y a l'intersectionnalité en plus, qui est une espèce de combinaison de la race et du genre. et puis l'épistémologie du point de vue, donc une philosophie de la connaissance très négative. Mais c'est assez simple de comprendre. Après, il reste à savoir ce qu'on peut faire. Ce que dit une journaliste, Barry Weiss, qui est une des anciennes journalistes du New York Times, qui a fondé un autre réseau de journaux, elle explique qu'il faut oser dire non. Il faut oser dire non partout.
Eh bien, un grand merci Jean-François Bronstein. Pardonnez-moi, je rappelle que vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et que vous avez écrit « La religion woke, philosophie devenue folle ». Merci à tous les deux, Yvan et Gabriel. Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr. Suite de programme, c'est dans un instant.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.